10h35 minutes, je vous ai raconté mon bonheur de jaser avec cet homme, Jean-François Nadeau. J'ai découvert un livre magnifique qui s'appelle Les Montréalais, qui est publié aux éditions de l'Homme. Bonjour, Monsieur Nadeau, ça va bien?
Oui, bonjour, ça va très bien.
Oui, à l'automne dernier, là, vous nous avez offert un très, très beau livre, Les Montréalais. C'est un livre de photos en noir et blanc qui illustre la vie des Montréalais de la fin des années 1800, j'imagine, aux années 1970. Pour un amateur de photos comme vous, là, un chroniqueur, historien au devoir, qu'est-ce que ça représente pour vous de publier un ouvrage de cette ampleur-là?
Ben, il n'y a pas grand-chose d'équivalent hein, qui a été publié à ce jour. Les gens disent toujours « Ah, des vieilles photos ». Mais c'est pas ça du tout. Hein. Quand on regarde des photos du temps de notre jeunesse, par exemple, ce sont des vieilles photos, mais c'est effectivement notre jeunesse, c'est les commencements qu'on regarde. Ben, c'est un peu ça aussi pour la ville. C'est-à-dire qu'en regardant les origines de la photographie dans cette ville, mais surtout les Montréalais eux-mêmes, pas les bâtiments, pas spécialement les rues, mais les gens à travers tout ça, de quoi ils ont l'air, qu'est-ce qu'ils font dans une boucherie, au théâtre, dans la vie de tous les jours, prenant le tramway, de quoi ça a l'air la vie d'un Montréalais à travers le temps, puis à travers aussi le regard des photographes. Parce qu'on a l'impression que dans une photo, encore aujourd'hui, quand on prend une photo, on a l'impression qu'on croque, qu'on attrape une partie du sujet qui est devant nous, mais c'est beaucoup de nous aussi qu'on a dans la photographie. Pourquoi est-ce qu'on décide de prendre ça plutôt que de prendre une autre affaire? Pourquoi est-ce qu'à une certaine époque, les gens ne sourient pas sur les photos? Est-ce que c'est juste des questions techniques? Est-ce qu'il y a des... Ben, on découvre en regardant un peu tout ça que les gens tiennent pas forcément à montrer leurs dents, hein, qui sont mauvaises, les soins dentaires sont pas parfaitement les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a des raisons techniques aussi avec les appareils. Donc, ce qu'on décide de photographier nous dit aussi quelque chose sur l'époque. Hein, au 19e siècle, on photographie beaucoup de familles très riches, des maisons cossues, des maisons de millionnaires, de milliardaires, de propriétaires de chemin de fer, tout ça. C'est comme si la pauvreté n'existait pas d'une certaine façon, en tout cas dans l'œil de plusieurs photographes montréalais, alors que ça change tout à fait dans les...
On se retrouve finalement...
L'état de la société, quoi.
Oui, c'est ça. On se retrouve finalement au cœur d'une analyse sociologique d'une époque, dans un sens.
Oui, sans s'en rendre compte, parce que c'est le bonheur de regarder des photos, de grandes photos, meilleures photos qu'on a pu trouver dans les archives, ici, au Québec, dans des fonds privés... à l'étranger aussi, on a retrouvé des photos à Lyon, à Paris, des photos absolument étonnantes. Par exemple, les frères Lumière, qui sont les inventeurs du cinéma, envoyaient ici ce qu'ils appelaient des opérateurs, des gens qui projetaient des films, les tout premiers films qui existent au monde. Montréal les a vus sur la rue Saint-Laurent, donc à la fin du 19e siècle. Et ces gars-là étaient aussi de très bons photographes. Donc, ils ont pris des photos assez exceptionnelles, des photographies notamment des Autochtones à Montréal, ce qui leur plaisait beaucoup. Alors, on a retrouvé ça à Lyon, on a ça dans le livre. On a des photos de Cartier-Bresson, qui est peut-être un des plus grands photographes du 20e siècle, qui est venu à Montréal en 1965. Ces photos sont très peu connues, photos dans des tavernes qui sont absolument exceptionnelles. On a un peu écumé ce qu'on a pu trouver dans des fonds d'archives, que ce soit donc ici ou à l'étranger. Je pense que le résultat est intéressant. La photographie, c'est un tout petit moment, hein, c'est 1/60e de seconde, 1/125e de seconde, puis ça donne un instant d'éternité. Au fond, c'est comme si c'était un tison qu'on arrachait au feu de l'histoire qui permet de brûler avec cet instant-là pour le reste de l'éternité. C'est quelque chose de très précieux, je trouve.
Bien, ce qui est précieux aussi dans votre livre, c'est que vous avez mis en valeur divers grands photographes, comme vous le dites, qui avaient pris des photos de Montréal puis qu'on n'avait pas vues avant, qui n'avaient jamais été publiées. Oui, vous avez fait beaucoup de recherches, mais comment on fait pour obtenir des photos aussi rares que ça?
Ben, on commence par s'intéresser beaucoup à la photographie. Ensuite, on s'intéresse beaucoup à Montréal.
Ouais.
Et puis, on fait la jonction des deux, c'est-à-dire qu'avec le temps et les efforts, on remonte d'un à l'autre. C'est une espèce de jeu qui est très amusant. Je dois vous dire que moi, au moment où le livre a été publié, je me dis « Ah non, laissez-moi encore un an, laissez-moi encore 2 ans, laissez-moi encore 3 ans, je pourrais en faire 2-3 livres comme ça maintenant. » Et là, je suis absolument étonné. Les gens se sont précipités sur ce livre-là. Ça a été un cadeau de Noël donné un peu partout. Il est publié en anglais aussi, ce qui fonctionne très, très bien. Les entrevues se sont multipliées. de Gazette a fait 2 pages en fin de semaine complète là-dessus. Moi, je suis étonné de l'enthousiasme pour ce livre-là. En même temps que ce que je comprends, c'est que les gens ont envie de voir, les gens ont envie de connaître, les gens ont envie de partager ce qui est au fond leur patrimoine, ouais, leur richesse, leur culture. Et c'est une vision de nous-mêmes aussi qu'on a qui est peu fréquente, qui nous permet de voir l'évolution des sensibilités, l'évolution de l'histoire, l'évolution des regards aussi qu'on a sur le monde dans une ville qui est une métropole, qui est Montréal.
Mais aussi l'évolution de la photo. Comment la photo a évolué au fil du temps? Parce qu'on en apprend un peu plus là-dessus aussi dans votre livre, là.
Ben oui, la première photographe, une femme au Canada, est installée ici en 1841 sur la place d'Armes. On sait aussi que lorsque le procédé le plus connu de la photographie, là, le daguerréotype, qui est inventé en 1839. On sait que dès 1839, on a un gars ici, Pierre Joly de Lotbinière, qui part en Asie, au Moyen-Orient en bonne partie. Il va photographier la Palestine, il va photographier les pyramides d'Égypte, il va photographier le Parthénon à Athènes. C'est le premier photographe au monde à avoir fait ça. Puis c'est un gars d'ici, ça, c'est assez exceptionnel. Bon, on a perdu les photographies parce qu'à l'époque, la photo, c'est un intermédiaire. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est des gravures. On veut graver sur une plaque de métal pour pouvoir l'imprimer dans des livres, pour pouvoir donner des reproductions fidèles, ouais, de ce qui se passe dans la réalité. Donc, on a un peu, et c'est vrai, une histoire de la photographie à travers ce livre-là et de grands photographes qui ont ponctué l'histoire de la photographie à Montréal, ce qui donne donc un double regard. Ça nous permet de comprendre un peu comment ces gens-là évoluent, comment leur œil évolue, parce que apprendre à une photographie, là, comment dire, on peut apprendre à lire, mais on peut apprendre à regarder aussi. Moi, ça m'énerve toujours beaucoup les gens qui disent en voyage, qui disent à leur conjoint aux jeunes, oh, arrête de photographier, contente-toi de regarder ou tout ça. Les gens ne réalisent pas qu'avoir un petit cadre, c'est souvent une façon de mieux voir. Ça nous aide, mais voyons, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette image-là? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je cadre? Puis après ça, on peut se demander, mais pourquoi on cadre ça? Pourquoi c'est ça qui nous intéresse en particulier? Donc, moi, je pense qu'un appareil photo, c'est quelque chose qui nous aide à mieux voir, qui ne nous empêche pas de voir, mais qu'au contraire, qui sublime le regard et qui donne un sens supérieur au regard. C'est pour ça qu'une vraie bonne photo, une photo qui dure, une photo qui est immortelle, c'est mieux que juste un souvenir évanescent, parce qu'on peut partager ça, on peut en discuter, puis il peut y avoir des interprétations qui sont données de tout ça. Donc, il y a beaucoup de soi dans le regard qu'on pose sur une photo.
Clairement, et vous avez fait le choix de mettre toutes les photos en noir et blanc, vous en aviez en couleur aussi, mais je veux parler aussi de la couverture qui est magnifique. Vous avez comme dû faire un choix pour avoir beaucoup de photos dans votre livre, mais parlez-moi de cette femme en mouvement en blanc devant les tramways, les hommes en uniforme. Pourquoi cette photo de couverture-là?
Parce que, justement, on pourrait dire la femme est un peu floue, elle est toute en mouvement, on a les tramways, on a l'élan de Montréal, en même temps, on a une qualité dans cette photographie-là. Personne ne va dire que c'est pas une bonne photo. Mm-hmm. Pourtant, selon les standards d'aujourd'hui, on dirait, oh, on voit pas assez bien, on a l'impression que la haute définition, le HD, donne la qualité au regard. C'est pas ça, c'est un sentiment essentiellement qu'on projette dans une photographie. Et ce qui est amusant, vous disiez le noir et blanc, pourquoi? La photographie couleur existe depuis très, très longtemps, quoi qu'on pense, hein, dès le début du 20e siècle, dès le début des années 1900, il y a de la photographie en couleur. Dans les années 30, il y en a aussi. Mais pendant très, très longtemps, même les gouvernements trouvent que la photographie couleur est suspecte. On la juge pas assez vraie. Même si vous vouliez avoir un passeport il y a quelques années, il vous fallait une photo en noir et blanc. C'était considéré comme plus réel. Et ce n'est, au fond, qu'à partir du développement de la popularisation de la photographie dans les années 60, puis du fait qu'on accepte la couleur dans les musées. Vous savez, la première fois qu'il y a une grande exposition de photographie dans un grand musée international, c'est à New York, et c'est en 1976 seulement que la photographie couleur apparaît comme quelque chose soudain de respectable au chapitre de l'art, de la représentation. Donc, il y a une histoire même dans le choix des couleurs, noir et blanc, considéré comme quelque chose de plus vrai pendant longtemps. Puis la couleur elle-même varie. Si vous regardez de la couleur des années 50, qui est fait avec généralement une pellicule qui s'appelle le Kodachrome, les couleurs sont éblouissantes, épaisses, sont extraordinaires, ça explose. On dit aujourd'hui, tout de suite en voyant une photo comme ça, « Ah! » C'est les années 50. Comme quoi notre regard n'est pas neutre. Probablement que quand on regardera des images d'aujourd'hui, On pourra immédiatement dire aussi, ah ça, ce sont des photos de telle ou telle année pour différentes raisons.
Mais c'est un livre vraiment complet. On en apprend vraiment... ça n'a pas de bon sens, là. Moi, je l'ai feuilleté, puis je pourrais feuilleter ça pendant des semaines et des semaines encore. On voit des photos rares, des photos marquantes d'une époque. On a une place aussi pour les diverses nations qui avaient comme patrie Montréal. Donc, c'est un beau cadeau en ce 375e anniversaire de Montréal. Mais nous aussi, à Sorel-Tracy, on célèbre le 375e de Sorel-Tracy. Donc, je me demandais à qui ça s'adresse, ce livre-là, les Montréalais?
Ben, à tout le monde. Tout le monde a des racines à Montréal. Montréal, c'est un terreau. Puis c'est un reflet aussi, il y a une forme de miroir, hein. La société québécoise ne peut pas exister sans Montréal, comme Montréal ne peut pas exister sans les régions. Moi, je viens pas de Montréal, je viens d'une petite région, mais il n'empêche que je m'intéresse beaucoup à Montréal. C'est important, c'est le cœur vibrant d'un pays ou d'un quasi-pays. Alors, c'est important de s'y intéresser, de comprendre ce qui s'y est passé, et c'est au fond un reflet de notre société qui passe à travers tout ça.
Alors, c'est là-dessus, sur ces belles paroles, que l'on va terminer cette entrevue. Jean-François Nadeau, qui a publié le livre « Les Montréalais », c'est disponible aux éditions de l'Homme. À entendre votre engouement, à voir l'engouement des gens aussi, j'imagine qu'il y aura un tome 2.
Oh, on verra bien, mais je suis pas mal sûr qu'ils vont le retirer aussi. Il va finir par en manquer, là.
Il va finir par en manquer, donc c'est une très, très bonne chose en vente dans toutes les librairies. Merci beaucoup. C'était Jean-François Nadeau qui a publié le livre « Les Montréalais, édition de l'Homme ». Gros, gros, gros coup de cœur pour moi. On s'arrête quelques instants et les détails météo, retour de la pause et la musique de Marc Derry.